Je vais introduire ce message par une lecture dans Thessaloniciens. On n'ouvre pas souvent cette épître, mais c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, qui parle sur l'avènement du Seigneur, sur lequel nous avons encore un petit peu des choses à dire aujourd'hui, suite au message de dimanche dernier. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole ou par quelque lettre qui nous serait attribuée, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant, l'apostasie soit arrivée. Vous savez ce que c'est que l'apostasie ? C'est le renoncement de la foi, c'est l'égarement de la foi, qui est une foi tordue, mais qui n'est pas la foi de la parole. Donc, auparavant, l'apostasie soit arrivée. Et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Alors vous voyez, là, il y a beaucoup, je m'excuse d'arrêter la lecture, c'est pour vous renvoyer à une lecture qui prend en compte l'ensemble de l'Écriture. C'est presque mot pour mot un passage de Daniel, chapitre 11, verset 37, si vous pouvez regarder chez vous, on ne va pas faire d'études bibliques ce matin. Où on voit que cette prophétie de Daniel est reprise par Paul ici. Et l'idée, c'est que l'homme se fait Dieu. L'homme se fait Dieu. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les idoles, c'était les empereurs, c'était tout un tas de choses qu'on adorait par une image qui représentait ce qu'on adorait. Et en fait, à la fin des temps, ce sera l'homme lui-même qui va s'adorer. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous ? Voyez, Paul rappelle que cette lettre-là, c'est déjà quelque chose qu'il a dit. Donc, visiblement, c'est un message qui a fait l'objet de plusieurs interventions de la part de Paul. Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient, donc cet impie, pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Et vous savez ce qui le retient ? Qu'est-ce qui le retient ? Pardon ? Oui, c'est l'Église. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Voyez-vous, ça semble indiquer l'enlèvement de l'Église, qui permettra à l'impie d'agir en toute impunité. Alors se révélera l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Là aussi, on voit un parallèle très très fort avec Daniel, à nouveau. J'ai pas la citation, le verset exact, mais c'est la fameuse statue, la vision de Daniel, où il y a une pierre qui se détache du ciel et qui va faire exploser les empires sur la terre, donc par l'avènement de sa bouche, l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie, verset 9, se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de la justice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Voyez-vous, quand on dit, on arrête là la lecture, quand on dit que Dieu et règne et qu'il contrôle tout, c'est exact. Le problème, c'est qu'il faut faire attention, parce que Dieu peut même envoyer des esprits, des démons de mensonge. Ça s'est vu dans l'Ancien Testament, des exemples. Et il le fera aussi à la fin des temps. Donc faisons attention de ne pas nous laisser glisser dans l'erreur ou dans le mensonge, parce que il y a des puissances de mensonge qui font que c'est un peu comme une planche savonnée où il y a où c'est glissant, c'est-à-dire qu'on peut plus se raccrocher. Donc il faut faire attention au début, vous voyez, de l'erreur. Il faut nous préserver de l'erreur. Tout à l'heure, je vous parlerai de la déclaration de Chicago, qui est une déclaration qui s'est faite par les évangéliques qui ont travaillé pendant 10 ans sur l'inhérence de la Bible. Donc, vous voyez, cette puissance d'égarement que Dieu va envoyer pour ceux qui croient au mensonge va accélérer la croyance au mensonge. Et donc, il faut être, faut être très très attentif à ce que Dieu veut faire dans ces derniers temps. Juste pour revenir un peu sur ce qui est passé il y a 15 jours, il n'était pas là. C'est vrai que certains pensent que c'est anodin, alors que ce n'est pas anodin du tout, l'intervention de Philippe, entre autres. Lorsque j'ai enseigné, je n'ai pas fini cet enseignement, sur Jésus règne et il doit régner. Effectivement, ça c'était insupportable pour lui, parce que pour lui, Jésus règne, point. Or, c'est pas ce que la Bible dit. C'est vrai que on aimerait bien que Jésus règne aujourd'hui sur la terre. Mais s'il régnait aujourd'hui sur la terre, il n'y aurait pas ce qu'on voit, les guerres, les problèmes, etc. Bon, sinon, on serait dans un royaume qui ne change pas de ce qu'on connaît. Quand Jésus va régner, effectivement, il n'y aura plus tout cela. Parce qu'il va museler le mal. Il est venu pour détruire le mal à la croix, mais à un moment donné, il va être muselé totalement. Aujourd'hui, il n'est pas muselé, ce que je sache. Donc, il faut bien comprendre, là, on est de nouveau dans une vision de l'histoire. Quelle est l'histoire qui se développe dans la Bible et qui est décrite, et en particulier ici, l'apôtre Paul, mais aussi Jésus, on le verra tout à l'heure dans Matthieu, qui parle de la fin des temps. Et il y a des références très claires sur la fin des temps. Et ça ne se passe pas sans que Satan y mette son nez. Là, on vient de voir que Satan va reprendre... vous savez, c'est un peu comme une bête qui est en train de mourir. À un moment donné, il y a un sursaut de vie. Et là, Satan va reprendre un sursaut de vie pour redoubler de rage contre l'Église, parce que c'est l'Église qui empêche que le mal aille à son comble. Parce que l'Église, c'est pas une institution humaine, c'est Jésus. On verra ça en septembre. C'est Jésus qui l'a créé, qui l'a institué. C'est Jésus qui nous a appelés par son esprit à une nouvelle naissance. Et c'est tous ceux qui sont en Christ constituent cette puissance contre le règne de Satan. Donc c'est l'Église aujourd'hui qui est ce frein au déferlement du mal, mais quand l'Église va être enlevée, eh bien ce déferlement va être total et Jésus va revenir pour établir son règne en emprisonnant Satan. Vous voyez, il faut toujours que Satan soit emprisonné. Si vous n'avez toujours pas compris que ce qui dirige les choses, c'est le spirituel d'abord, et la Bible dit bien, eh bien vous êtes mal, parce que on est dans l'humanisme. L'humanisme pense qu'il y a des causes et des effets, bien sûr, il y a des lois et des causes et des effets, mais c'est surtout le spirituel qui commande, c'est les principautés, les puissances, comme le dira l'apôtre dans Éphésiens 6, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances du mal. Le problème d'aujourd'hui, c'est que Satan prépare la bataille. C'est que les petits-enfants, ils ont regardé Narnia, là. Et à la fin, on voit que la bataille se prépare. Et Satan se réjouit de cette bataille parce qu'il pense la gagner. Et là, à nouveau, il y a une bataille qui se prépare. Et il aime bien faire croire aux gens que c'est blanc-noir. Vous voyez, c'est blanc-noir. Donc quand vous êtes blanc-noir, eh bien, vous ne prenez pas en compte les paradoxes de la Bible. La Bible dit que Jésus règne déjà, mais pas encore pleinement. Donc faisons attention, parce que nous, dans notre chair, nous sommes sensibles, un peu comme un paratonnerre, un peu comme un récepteur, vous voyez, à toutes ces influences de séduction. Et l'ennemi séduit. D'ailleurs, dans le millénium, Jésus va libérer Satan un dernier temps pour séduire les humains. Parce que Dieu aime qu'on l'aime de tout notre cœur, et pas par obligation. Et donc, il laisse cette séduction pour voir où est notre cœur. Est-ce que nous sommes attachés plutôt au Seigneur ou plutôt à nous-mêmes ? La nouvelle réforme apostolique, dans laquelle beaucoup d'évangéliques chrétiens sont, eh bien, fait du lavage de cerveau. C'est-à-dire qu'il essaye d'amener une autre vision de la fin. Alors, en termes théologiques, on appelle ça une eschatologie. La logie, ça renvoie à une science, hein, la science de la fin. Eschatos, c'est la fin. Donc, les fins dernières, on vient de le lire dans Timothée, les discours sur la fin des temps. C'est vrai que j'ai jamais prêché là-dessus, pensant que c'était acquis, mais je pense qu'il n'y a rien d'acquis. D'autant plus qu'aujourd'hui, Internet vous permet de vous informer sur un tas de choses, mais vous savez, c'est comme moi. J'ai pu avoir une carrière scientifique, enfin, construire des choses superbes, mais si je n'avais pas eu les éléments de base pour cette formation, j'aurais fait un peu n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai fait à un moment donné l'intelligence artificielle, le transfert de savoir, hein, avec une fille qui a fait sa thèse d'état, et j'ai travaillé avec elle pour transférer du savoir entre différentes personnes, entre un ouvrier, un ingénieur, un technicien. Et on voit que ce qu'il y a dans le cerveau, c'est lié à l'acquisition des savoirs. Et suivant les savoirs, on ne raisonne pas pareil, on ne résout pas les problèmes de la même manière. Et donc la vision du monde aussi, si nous on a une vision qui est déformée, eh bien nous allons agir de manière déformée. On ne peut pas faire autrement parce que ça passe par notre compréhension. Croire, comprendre, agir, c'est les trois éléments de notre action. Alors regardons un petit peu l'eschatologie. Donc là vous avez des slides qui sont un peu plus clairs le dimanche dernier, parce que j'avais oublié mon ordi. C'est ce qu'on appelle le phénomène du millénarisme. Le millénarisme. Dans l'eschatologie, on touche à l'aspect du millénium, donc le millénarisme, qui est le règne terrestre de 1000 ans de Christ. Alors certains qui sont très radicaux pensent que c'est 1000 ans comme 24 heures par jour. D'autres pensent que c'est symbolique, c'est voilà. Je rentre pas là-dedans. Je pense que ça c'est du détail. Peu importe, il y a un événement pendant une certaine durée où Christ va effectivement régner sur terre. C'est une question d'interprétation des textes. Alors, il y a trois façons d'interpréter les textes de la fin des temps. La première, c'est ce qu'on appelle l'amillénarisme, comme tout ce qui précède un mot avec A, ça veut dire sans le millénarisme. Donc cette interprétation, elle est de type symbolique. Les amillénaristes envisagent le millénium dans une perspective purement spirituelle. Christ revient à la fin de l'histoire, ça, ils sont tous d'accord, pour juger le monde et régner physiquement pour l'éternité. C'est une lecture symbolique. Alors j'en ai longtemps parlé avec Jean-Marc Potenti est amillénariste, Jean Bonnet est amillénariste. On verra tout à l'heure que ça pose quelques problèmes quand vous restez uniquement dans le symbole, parce que vous ne pouvez plus interpréter l'histoire après. Et ce symbolisme, donc, bien sûr, permet d'appliquer l'Apocalypse à l'an 70, quand il y a eu la destruction de Jérusalem, permet de l'appliquer à différentes époques, et bien sûr, à la fin, ça permet de s'appliquer à toutes les époques, puisque c'est symbolique. Deuxième façon de voir le millénium, c'est le post-millénarisme, sachant que ce qui fait foi dans le post-A ou pré-millénariste, c'est la venue de Jésus. Les chrétiens sont tous d'accord que Jésus va revenir, y compris les catholiques, hein, savent tous. On est d'accord. Post, ça veut dire il viendra après le millénium, post-millénariste. Donc Jésus viendra après le millénium, donc le millénium précède la venue de Jésus. Et les forces de Satan seront progressivement battues à mesure que le royaume de Dieu s'accroîtra par l'Église à travers l'histoire, et ce jusqu'à la seconde venue. Le post-millénarisme implique donc une vision optimiste de cette science de l'eschatologie. La société s'améliorera à mesure que la fin des temps approchera. C'est une lecture utopiste. Cette lecture a toujours existé. Il y a eu énormément de moments post-millénaires, en particulier les passages des millénaires, parce qu'il y a des peurs qui s'installent, donc on croit qu'on est à la fin des temps. Quand il y a des pestes qui ravagent des continents entiers, etc., on peut le comprendre. Hein. Mais voilà, ça alimente cette peur. Et la troisième interprétation, c'est le pré-millénariste. Ça veut dire que Christ revient avant le millénium, durant lequel il régnera sur la terre. Les tenants du pré-millénarisme envisagent le millénium littéralement, c'est-à-dire tel que c'est écrit. Et il s'agit d'une période historique de 1000 ans pendant laquelle Jésus régnera sur la terre. C'est une lecture littérale des Écritures. Alors, à l'intérieur du pré-millénarisme, qui est une interprétation, on le verra, évangélique, il y a deux petites variantes, même trois, mais bon, j'en présente deux. C'est que l'Église est enlevée après la tribulation, parce qu'avant l'enlèvement ou après, enfin, avant le retour du Christ, il y a une tribulation de 7 ans. Alors, là aussi, est-ce que 7 ans, c'est littéral ou pas, ou est-ce que c'est symbolique? Mais en tout cas, il y a une tribulation, où il y a justement la montée de l'Antichrist, comme on l'a vu. Et la deuxième interprétation, qui est illustrée dans les films et les livres de Left Behind, là, vous allez voir Olivier, qui connaît très très bien ces versions-là, moi je ne les ai pas vues, mais je sais qu'il traite de ça. Eh bien, l'enlèvement de l'Église se fait avant la tribulation. Donc les chrétiens ne subiront pas la tribulation. Vous voyez. Donc il y a ce qu'on subira ou on ne subira pas, la tribulation qui va être terrible sur la terre. Voilà, c'est aussi une interprétation qui n'a pas aujourd'hui de réponse définitive à travers de la Bible. Je reviens au pré-millénarisme. Ce pré-millénarisme, donc Jésus revient et il installe son royaume sur la terre. Jésus est venu une première fois et qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Il a été cloué sur une croix. C'était le serviteur souffrant qui a porté nos péchés. On l'a chanté ce matin. On le reverra à la Sainte-Seine. C'est grâce à cette venue que le péché a été éradiqué de la nature humaine, puisqu'il y a un nouvel Adam, Jésus, qui est monté au ciel. Sauf que ce nouvel Adam, il est au ciel aujourd'hui. Il n'est pas sur la terre. Donc il faut qu'il revienne une deuxième fois. C'est le second retour. Et ce second retour, lui, ce nouvel Adam, va venir sur la terre et gouverner la terre. Et aider à vivre tel que tout le monde le souhaite, dans la paix, la joie, la sérénité, etc. C'est la théologie de l'évangile du royaume de Georges Lade que je vous propose d'étudier toutes les 3 semaines le samedi. La prochaine recommence le 23 septembre. Ceux qui veulent se joindre, vous prenez le train en marche parce qu'on est au chapitre, en partie 4, je crois. Mais cette théologie de l'évangile du royaume explique, et dans le pré-millénarisme, c'est une vision issue d'une exégèse biblique, c'est-à-dire une lecture textuelle du royaume, telle qu'elle est décrite dans Daniel et dans Apocalypse. C'est la théologie évangélique. Pourquoi évangélique? Parce que, en fait, si vous lisez l'Apocalypse différemment, symboliquement, par rapport à tout le reste, pourquoi pas prendre les épîtres de manière symbolique, voyez. Après, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Alors que les évangéliques, habituellement, disent que toute la parole est inspirée, telle qu'elle a été dite par l'apôtre Pierre, et si elle est inspirée, on peut la prendre telle qu'elle se présente, et pas en essayant de symboliser certaines parties et pas d'autres. Elle est partagée par la majorité des églises évangéliques, parce qu'aujourd'hui, il y a une partie des évangéliques qui quittait cette interprétation. Et elle a toujours été celle de l'Église primitive. J'ai mis le Didaké parce que c'est après... C'est une sorte d'acte des apôtres, le Didaké, qui n'a pas été reconnu comme inspiré, mais dans lequel c'est assez épais comme de la fin des temps et le préminérisme. Et les pères de l'Église, jusqu'à Augustin, en tout cas, ça a été interprété de cette manière-là. Aujourd'hui, l'Église catholique est amillénariste, parce qu'elle a vu trop de millénarisme, justement, trop d'excès. Et du coup, elle est devenue, avec Thomas d'Aquin, millénariste symbolique, tel que c'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Personne ne peut dater cet événement, puisqu'il vient après le retour de Jésus. Donc, c'est pas datable, puisqu'il faudrait dater le retour de Jésus, comme certains l'ont fait, les Mormons, les témoins de Jéhovah, les Adventistes, et comme c'est pas arrivé, voilà. Donc, Jésus a dit, personne ne connaît le jour ni l'heure. Donc, même le millénium, on peut pas le dater, puisqu'il faut dater le retour de Jésus. Et Georges Ladd aborde la question du millénium par du prémillénarisme modéré. Donc il n'est pas radical, ou voilà, c'est 1000 ans, si ça commence à 2050, ça durera jusqu'à 3050. Mais il y a un aspect radical, il y a quand même des symboles dans l'Apocalypse, le symbole 7, le symbole 4 revient, il y a du symbolisme, c'est vrai. Mais après, justement, il faut être habitué à la lecture des textes apocalyptiques, on appelle ça des textes apocalyptiques, c'est une façon de décrire la fin des temps, il faut être un petit peu instruit là-dedans au niveau biblique. Et c'est la position de notre Église. La position post-millénariste, donc ça veut dire que Jésus revient après, post c'est après le début du millénarisme, le retour de Jésus vient après. C'est la position de la nouvelle réforme apostolique. Alors la NAR, c'est New Apostolic Reformation, et chez nous, c'est nouvelle réforme NRA. C'est la NRA et la NAR en anglais. Donc la NAR, puisque c'est une conception américaine, anglaise, vaut mieux appeler la NAR pour qu'on parle de la même chose. C'est cette nouvelle réforme qui, semble-t-il, va réformer l'Église entière, va secouer complètement les bases de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. En tout cas, j'ai entendu ça de la bouche de Jean-Marc Potenti il y a 3 ans dans une pastorale, qui devrait complètement vous asseoir. Voilà. Ok. Donc cette nouvelle réforme apostolique, elle est constituée par le dominionnisme, qui est de croire que aujourd'hui les chrétiens doivent dominer le mandat, utiliser le mandat de Genèse 28 pour dominer sur le monde. Effectivement avec Christ. Ce sont ces 7 sphères ou les 7 montagnes qui sont symboliquement, au début il y en avait 21 ou 22, qui ont été choisies pour caractériser les pouvoirs dans la société. Donc les pouvoirs culturels, les pouvoirs politiques, les pouvoirs économiques, les pouvoirs de l'art, etc. Donc il faut les dominer, il faut que les chrétiens dominent dans ces situations. C'est une vision qui est issue d'une théorie, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut connaître les origines. Nous, on est dans une vision pré-millénariste qui est le texte, qu'est-ce qu'il dit, et voilà, on croit ce que dit le texte. Alors après, on comprend pas tout, voilà, on est un peu modéré dans nos propos, puisque le millénarisme ou le millénium, si vous voulez, il n'y a pas de théologie dessus. On ne sait pas comment Jésus va régner pendant ces 1000 ans, qui sera son premier ministre, qui sera son ministre de, parce qu'il faudra bien une organisation politique. Bon, comment est-ce que Jésus va faire? Voyez, tout ça, c'est pas décrit. On est d'accord. Donc, on peut pas s'étendre. D'ailleurs, dans la théologie de l'AD, il y a ça comme page. Il y a peut-être 20 pages sur l'ensemble du livre qui fait plus de 1000 pages. Justement, on reste modéré. Pourquoi ce millénium existe? On ne sait pas très bien. D'ailleurs, l'AD le dit. On ne comprend pas pourquoi Dieu n'a pas donné tout de suite la nouvelle terre. Pourquoi est-ce qu'il passe par 1000 ans de règne? Bon, mais on l'accepte par la foi. Par contre, là, le post-millénarisme est basé sur une théologie politique. C'est-à-dire que pour changer les choses, il faut passer par la politique, puisque c'est la politique qui dirige les choix de la société. Et cette politique est soutenue par la droite chrétienne alternative américaine. alt-right, la partie conservatrice américaine, bien sûr, qui est totalement opposée aux démocrates, qui veut tout changer, maintient cette position parce que l'Amérique a une destinée particulière. Elle a été appelée par Dieu. D'ailleurs, j'entends rien. Cette semaine, Trump a dit il est l'élu de Dieu. C'est lui qui l'a dit. Hein. Bon. Il suffit d'écouter un petit peu les nouvelles pour bien comprendre que l'Amérique se sent un rôle d'élection au même titre qu'Israël dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, c'est l'Amérique qui détient. Alors, ça va même plus loin parce que moi, quand on a fait chez nous à Saint-Martin dans les années 80 l'église de maison, il y avait un frère qui a fait venir une dame, mais il n'y a pas qu'une dame, qui expliquait que les 10 tribus d'Israël qui sont perdues, elles sont en Europe. Et en Europe, sont toutes les tribus d'Israël. Donc elles sont destinées à prendre la suite d'Israël dans le plan des nations. Et comme les Américains, bien sûr, sont venus d'Europe, eh bien, c'est l'Amérique maintenant. Il y a les 10 tribus d'Israël qui doivent dominer sur la terre. Oui, on passe tout un tas de fantasmes au travers de ça. Et il fallait trouver, l'idée c'était de trouver, il fallait que je trouve la tribu d'Israël dans laquelle je fais partie. Il y en a qui disaient, moi je suis d'un tribu de Lévi, de Nephtali, etc. Et ils passaient leur temps à chercher leur tribu, un peu comme les Mormons qui cherchent leurs origines. C'est une approche totalement utopique, qui revient à chaque période de grande peur, de fin du monde. Il y a beaucoup de temps sur les 2000 ans qui ont passé, hein, en 70, mettez à la place d'Israël, pour eux c'était la fin du monde. Hein. Le pouvoir romain était tellement, il était bien sûr piloté par Satan derrière, et parce que Jésus avait proclamé que Jérusalem ne resterait plus rien. Eh ben, ils ont vraiment tout rasé, ils ont mis du sel sur tout Jérusalem pour que plus rien ne repousse. Quand les Romains faisaient ça, c'était pour qu'il n'y a plus jamais à rien dans l'avenir qui repoussera d'Israël. Bien sûr, c'est pas le cas, puisqu'en 48, la nation d'Israël a ressurgi, refleuri. Mais vous voyez, on est dans des grandes peurs, des angoisses de fin des temps, de passages de millénaires, des cataclysmes, des maladies en tout genre qui font peur, et on cherche à expliquer qu'on est dans la fin parce qu'on atteint un soulagement. Hein. C'est comme quand vous blessez, vous attendez le soulagement, hein. Soit naturel, soit spirituel, mais vous priez, enfin, vous n'allez pas rester dans des angoisses ou des. Voilà, c'est naturel. L'homme, il cherche le soulagement. Mais donc, on cherche le soulagement dans du millénarisme. La nouvelle réforme apostolique date le début du millénium au passage du millénaire. Tiens, c'est étonnant. C'est un peu simple, mais voilà. Donc, en 2001. Et particulièrement la descente des World Trade Center, ce serait le début du millénium. Donc il donne des dates. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que l'astrologie donne la même date. Donc cherchez l'erreur, je n'en dirai pas plus. L'âge du Verseau, Aquarius, commence aussi en 2000. Alors, c'est troublant. Je reviens juste un peu sur la millénarisme, la question du symbolisme. Le millénium est confondu avec l'âge de l'Église. Comme ça, il n'y a pas de souci de date. Il commence à la Pentecôte et il se termine au retour de Jésus. Donc le millénium, c'est l'équivalent de l'âge de l'Église. Le problème, c'est que c'est une forme de post-millénarisme, puisqu'il était avant. Mais il débute avec la création de l'Église. Le millénium correspond à la durée de l'Église. Mais comme il est purement spirituel et symbolique, il se heurte à l'explication du déroulement des événements de l'histoire, en particulier le retour d'Israël comme nation 1948, en événement majeur de Dieu dans l'histoire de l'humanité, prophétisé par les Écritures. Ça, c'est ça qui m'a amené à la conversion. C'est en 67, quand Israël a gagné la guerre des six jours, qui devait être leur fin totale, parce que les Arabes avaient prévu de les jeter à la mer. Ils avaient déjà fait les affiches et tout, on les jette à la mer. Et quand j'ai vu que Dieu intervenait, Paris Match, ils ont sorti toutes les images de cette bataille incroyable où les Arabes partaient parce qu'ils voyaient des anges. En Syrie, ils étaient deux chars contre je ne sais pas combien, 500 chars, et puis ils ont vu un ange de l'Éternel qui venait, hop, ils sont partis avec les jumelles, ils voyaient des guerpires les Syriens, ils disent qu'est-ce qui se passe. Et après, ils ont dit, bah oui, on a vu que Dieu est avec vous. Et donc tout ça, c'est l'intervention de Dieu. C'est Dieu qui aide Israël. C'est pas les humains. Et ça, Jean Brunet m'a dit, bah, ça, je peux pas l'expliquer, donc c'est très troublant, je suis militariste, mais voilà, ça me pose problème. Bon, quand les gens sont honnêtes, ils vous le disent, hein, que leur façon, leur vision ne permet pas de s'ajuster avec certaines choses. Ce qu'on n'a pas le cas avec le pré-millénarisme, sauf qu'il ne faut pas aller trop loin non plus, hein, dans cette interprétation. Alors, je vous montre un visage. Quels sont ceux qu'ils connaissent? Il est peut-être un peu petit, hein. Quels sont ceux qu'ils connaissent? Non? Je pensais que tout le monde le connaissait. Vous voyez, comme quoi, quand on prépare un message, on se dit, mince, c'est tellement évident, je ne vais pas en parler. Pardon?
C'est pas John Wimber?
Non, c'est pas John Wimber. Non. John Wimber, il est là. Il a été mis dans ceux qui ont marqué l'histoire contemporaine, donc il est là, John Wimber. Il n'a pas tout à fait la même tête. Ah, comme quoi, vous voyez. Oui, c'est pas facile à voir. C'est pas facile à voir.
Moi, je pensais à Chevènement.
Voilà. C'est Peter Wagner. Peter Wagner. Peter Wagner. Non? Ça vous dit rien? Alors Peter Wagner, bah, comme quoi le message servira à quelque chose, moi. Parce que tous les chrétiens regardent l'Internet, et c'est pas mauvais, parce qu'il y a des choses extraordinaires sur Internet. Mais si vous tombez sur Peter Wagner, c'est l'homme qui vraiment est instrumentalisé, je dirais, par l'ennemi, et qui était extrêmement bien au départ, et qui aujourd'hui est à la tête de la nouvelle réforme apostolique. Peter Wagner, c'est quelqu'un qui est un homme, jusqu'à la fin, était super, hein, mais c'est un phénomène. C'est le phénomène, à partir de maintenant, si vous lisez des choses, mais peut vous aider à découvrir l'erreur, hein, parce que si vous êtes, comme je le disais, dans l'erreur et que vous êtes sur la pente, déjà au départ, ça commence à glisser, et ensuite après, ça glissera de plus en plus vite. Donc, Peter Wagner est un phénomène, je pense, qui a été, parce qu'il m'a troublé, ce phénomène, c'est un phénomène que Satan a utilisé. C'est un produit du post-modernisme. Alors, qu'est-ce que vous voyez, post-millénarisme, post-modernisme, tout ça, ça va ensemble. Habituellement, on classe, les historiens, je parle, on classe l'histoire dans des séquences de civilisation. Alors, je parle l'occidental, hein, parce que l'Afrique, je n'ai pas étudié la question, c'est un peu plus compliqué. Y a le Moyen-Âge, l'Antiquité, vous connaissez l'Antiquité, hein, Socrate, Platon, juste avant la venue de Jésus. Pour simplifier, après il y a le Moyen-Âge, hein, vous connaissez le Moyen-Âge, ceux qui ont... Voilà. Et ensuite, après, il y a la Renaissance. Hein, la Renaissance, découverte des textes grecs, anciens, parce qu'on connaissait que le latin. On parlait que le latin. Alors que les textes antiques sont écrits en grec, en hébreu, etc. Donc, cette découverte a fait qu'il y a une éclosion de vie à nouveau qui est venue à la Renaissance. Et ensuite, après, il y a l'illumination, l'illumination de la raison, hein, au XVIIe siècle. Donc là, on a découvert avec, en particulier, Descartes, hein, je pense, donc je suis, le début. Alors, ceux qui sont un peu passionnés de comprendre tout ça, écoutez Schaeffer, Francis Schaeffer, qui a fait des films là-dessus extraordinaires, qui montrent, pas uniquement la littérature, mais dans tous les domaines, cette montée de l'humanisme. Ce qu'on voit à la fin, quand l'homme se fait Dieu, c'est l'humanisme. Et donc on voit cette montée-là, avec Descartes, donc on est dans la période de la raison. Et cette période a abouti à la Révolution française. Vous connaissez la Révolution française, 1789? Non, parce que je me fie un peu aujourd'hui et ce matin. Peut-être on fait un petit peu rappel de tout ça. Mais il faut comprendre l'histoire. Jésus a dit à ses disciples, vous savez discerner le ciel le soir, vous savez que c'est rouge, le lendemain matin il va être beau, et vous ne savez pas discerner les temps dans lesquels vous êtes. C'est grave. Si vous ne savez pas discerner les temps, vous ne savez pas où vous êtes. Vous êtes dans le brouillard. Mais il faut éclairer les choses pour voir clair. Et la Révolution française a instauré là l'idole de la raison, hein, quand même. C'est une Anglaise qui dit ça. L'idole de la raison. La raison a été élevée comme idole. On a transformé des prostituées pour les mettre sur les autels des églises catholiques qu'on a saccagées, etc., pour les adorer. Vous voyez, un symbolisme de la raison. Okay. Et cette raison, le problème, c'est que elle a donné de l'espoir à toute l'humanité, qui s'est effondrée quand cette raison, cette utopie de la raison avec les deux guerres mondiales. Les deux guerres mondiales qui a décimé des millions et des millions de gens, guerre mondiale, ben ils ont dit peut-être que l'idole de la raison, hein, elle n'est pas si forte, si puissante que ça pour nous sauver. Et après l'idole de la raison, on est maintenant, donc ça s'appelle la période moderne, et la période post-moderne, qu'est-ce qu'on adore? Quel est le shift qui s'est produit? Si vous ne le savez pas, c'est difficile de comprendre dans la société dans laquelle vous êtes. Pardon? Non, la science en fait partie, mais ce n'est pas l'idole principale. Oui, là, ça c'est une conséquence de l'autorité qui était bannie. Aujourd'hui, vous vivez au 20e siècle, 21e siècle. Vous vivez en 2019, on voit 2020. Quelle est l'idole? Puisque avant c'était la raison et que maintenant les gens n'y croient plus, à quoi ils croient maintenant? Pardon?
L'homme.
Oui? Mais plus particulièrement, parce que l'homme c'est déjà de la Renaissance, l'humanisme a monté, c'est là. La liberté, oui, ça c'est déjà la Révolution française, liberté, on voit Marianne, la liberté. Hello? Alors l'individualisme, voilà, très très fort. Alors je vous renvoie à des hommes que vous connaissez, qui étaient Premier ministre au temps de Gaulle, en particulier le ministre de la Culture, dont je me rappelle Malraux. Qu'est-ce qu'il disait Malraux? Il n'a pas dit que des bêtises. Hein. Il a dit que... Voilà, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Ou ne sera pas. C'est la spiritualité, mes amis. C'est une sorte de millénarisme, vous voyez. On se projette dans une spiritualité, sauf qu'elle n'est pas biblique. Hein, y compris chez les chrétiens. Et c'est ça le problème du nard. C'est que la spiritualité aujourd'hui, c'est l'échappatoire à l'angoisse écologique, et la montée des eaux, les glaces, l'écologie. Pourquoi les mouvements politiques écologistes ont tant de succès? Parce que les gens, ils ont peur, ils angoissent, surtout, ben nous, ça va, mais ceux qui sont sur des îles qui ont dit, voilà, non. Dans 10 ans, faut dégager parce que l'eau est monte, vous voyez. Voyez bien qu'il y a de l'angoisse, non? Mettez-vous à leur place. Alors, nous, on est un peu plus loin de cette angoisse, mais elle existe. Donc cette angoisse, il faut comprendre que c'est une angoisse réelle aujourd'hui. Alors je ne parle pas du climato-sceptisme, etc. Bon, je ne rentre pas là-dedans, mais il y a une angoisse qui fait que les gens cherchent dans le spirituel. Ils cherchent du sens, ça s'appelle la quête de sens. Hein, spiritualité, quête de sens. Et tout le monde cherche la quête de sens. Il y avait deux dames qui étaient là, je crois que Sylvienne les connaît, et à la fin je les ai vues discuter, donc je suis allé les voir, je dis, ah, c'est ce que vous pensez, etc. Et puis ils parlaient de ce que j'avais dit dans le culte et tout ça. Et je dis, mais oui, parce que vous êtes dans la quête de sens. Il dit, mais comment vous savez, pasteur? Je dis, voilà, je le sais parce que je suis dans le monde que vous connaissez, voilà, etc. Et j'ai pu leur parler justement de leur quête de sens qui va aboutir simplement sur de l'occultisme. Derrière la quête de sens, c'est l'occultisme. On découvre l'occultisme. l'astrologie, parce que le bouddhisme, le zen, le yoga, machin, etc., tout le monde a sa spiritualité. Et y compris les évangéliques qui déforment la Bible pour avoir leur spiritualité. Ça touche tout le monde. Tout le monde. Hein? Dis à ton voisin, tout le monde. Tout le monde. Donc il faut se méfier. Et pour moi, Peter Wagner est un produit de ce postmodernisme, qui s'affranchit de la tradition évangélique de l'Église, parce qu'elle est ringarde, parce que voilà, on chantait la croix. Bon, à Bethel, on nous a dit faites ça dans vos églises, mais ici, nous, on cherche les phénomènes spirituels. Voilà, on cherche le surnaturel. Voilà, ça, vous l'avez pas dans votre église, donc vous venez ici. Vous voyez, donc c'est repoussé toutes les anciennes traditions. C'est plus de mise. Enfin, ils sont pas contre, mais c'est pas du tout leur thèse de thé. Et cette tradition évangélique est fondée sur l'inhérence de la Bible. C'est quoi l'inhérence? C'est un mot un peu barbare, je reconnais, mais... Oui, bien, Jérôme. La Bible ne se trompe pas. Elle n'a pas d'erreur. Inhérence, ça veut dire qu'elle n'a pas d'erreur. Est-ce que vous croyez que la Bible n'a pas d'erreur? Oui. C'est très difficile à croire. C'est très difficile à croire. Parce que ça dépasse l'imagination. Parce que il y a certaines erreurs, c'est vrai, qui se sont glissées dans les manuscrits, qu'on essaie de corriger. Mais bon, c'est des erreurs très mineures. Hein. Quand on a fait l'Expo Bible, quand on a fait deux fois 2006-2013, quand on expose la Bible, on voit que la Bible a une fiabilité incroyable dans les retranscriptions, etc. Mais ceci étant, il peut y avoir des erreurs. Mais l'idée de croire que la Bible est sans erreur, c'est évangélique. Il n'y a que les évangéliques qui ont postulé ce... C'est un postulat. C'est un postulat. En 1848... Ah oui, pardon. En 1848, quand les églises protestantes auxquelles les églises évangéliques étaient adossées commençaient à rentrer dans le rationalisme, puisqu'on parlait de la raison, vous voyez que les chrétiens tombent dans le même travers que les inconvertis, ils ont rationalisé la Bible en disant « Mais oui, mais tout ça, c'est peut-être symbolique. » Vous voyez, on retombe sur le symbolisme qui explique telle chose. C'est peut-être symbolique. Jéricho, peut-être pas existé. Bon, Jérusalem, forcément, ça existait parce qu'il existe encore aujourd'hui, la ville. Mais tout un tas de villes, etc., ils ont remis en cause par la critique rationnelle. Et bien sûr, ça a énervé les évangéliques de l'époque, qui se sont constitués en mouvement évangélique mondial, 1848 à Londres. Regardez mes sources, vous les trouverez confortées par Internet là-dessus. Et ils ont donc fondé ce mouvement évangélique pour contrer la dérive du protestantisme de l'époque. À tel point, ils sont tellement arrivés à des extrémités la fin du XIXe siècle, donc 1870, qu'ils ont décrété que Christ n'était pas ressuscité. C'était un esprit qui est parti, voilà, on appelle ça, enfin, les trucs qui expliquent ça. À tel point que l'Église catholique a réagi en disant, attendez, les protestants vont trop loin, quoi. Ils vont trop loin. Bon, bien symbolique, mais pas là. Et du coup, l'Église catholique a convoqué un concile, ça s'appelle le concile du Vatican I, dans les années 1880 ou 60, je ne sais plus, pour rectifier ça, pour affirmer la foi. Vous vous rendez compte, des catholiques qui affirment la foi aux protestants. Voilà. Pour dire non, Christ est ressuscité. C'est la base du christianisme. Et les évangéliques qui s'étaient mis de côté, heureusement, ils ont pu garder cette thèse du Christ est ressuscité, plus le reste. Voilà donc le mouvement évangélique. Et c'est basé sur l'inhérence de la Bible, c'est-à-dire la Bible est sans erreur. Et c'est que les évangéliques qui ont ce postulat. Alors après, ça devient très, très difficile pour rester là-dessus. Et il n'y a que en France, en tout cas, quelqu'un comme Blocher qui arrive à faire ça, qui est reconnu dans le monde entier, y compris chez les anglo-saxons, il est seul à être traduit qui arrive à tenir cette thèse-là. Mais il faut être très très fort, très très fort. C'est pas évident, mais on y arrive. hein, avec beaucoup d'humilité, parce que quand on ne sait pas, on ne sait pas, on le reconnaît. Mais Blocher, par exemple, a toujours parlé de « mon Seigneur ». Il termine « mon Seigneur ». On voit son amour pour son Seigneur. Mais en même temps, la Bible dit ça, dit ça, dit ça. Il a... Bon, c'est un cerveau. Hein. Quand vous parlez de quelque chose, il cite un livre à la page 252, à la lignée 3, il dit ça. Bon, ok, ça c'est, c'est fait. Mais il y a cette cohérence, il faut une authenticité, une cohérence biblique. Je vous propose la théologie de l'Ade, qui est beaucoup plus simple hein, que celle de Blocher, qui va beaucoup plus loin. Enfin, c'est, en plus, c'est un exégète et un apologétiste, donc qui défend la foi. Mais déjà, ça donne des fondements. Et si je l'ai fait, ce n'est pas par hasard. C'est que je sais que si vous avez les rudiments de cet évangile du royaume, eh bien, vous pouvez déjà vous préserver de l'erreur. La Bible est sans erreur, parce qu'elle est inspirée de Dieu. Ce phénomène, Peter Wagner, est issu de la troisième vague. Alors, qu'est-ce qu'on appelle vague ? La première vague, dans le XXe siècle, c'est le mouvement Azusa Street, aux États-Unis, où il y a la Pentecôte, qui est venue, en 1906, les pentecôtistes, William Seymour. Voilà, il est là. C'est un baptiste. Et William Seymour, donc, ça donnait naissance aux pentecôtistes. La descente du Saint-Esprit, comme à la première Pentecôte. Ensuite, il y a la deuxième vague, et ça, c'est venu sur n'importe quel chrétien évangélique à l'époque. Et la deuxième vague est venue, alors la première vague, je suis à la troisième, la deuxième vague, c'est en 1960. 1960, le Saint-Esprit est tombé, entre guillemets, sur les églises institutionnelles, catholiques, protestantes, réformées, luthériens, réformés, etc. Et c'est venu comme ça. Hein. Par exemple, le prêtre de Chatou, c'est pas Chatou, c'est à côté de Chatou, là. Voilà. Pardon, Vézinet. Oui. En fait, il était dans deux chevaux. Souvent, les curés étaient avec des deux chevaux. Il était en deux chevaux. Et puis, d'un seul coup, Saint-Esprit est tombé sur lui. Il a commencé à parler en langue, voilà, etc. Dans sa dodoche, quoi. Et puis, il est rentré, là, au Vézinet. C'est les Fenets, hein, qui... C'était le PEC. Le PEC. Et les Fenets étaient dans sa paroisse. Et c'est les Fenets, c'est des fondateurs de CCY. Et son église était grande. Hein. Non, mais là, c'est pas une cathédrale, mais c'est une grande église catholique là. Elle était remplie. Il y a des cars qui venaient de Belgique et tout ça. Quand il prêchait, c'était le feu, quoi. Le feu dans la chair, quoi. Il parlait de Jésus et tout ça. Il mettait le feu chez les paroissiens. Et les catholiques n'ont rien dit, voilà, parce qu'ils n'ont pas compris. Enfin, il n'y a pas que lui. Hein. C'est un mouvement où le Saint-Esprit est descendu sur ses... N'empêche qu'aujourd'hui, ça a été rattrapé. Hein. Tout ça, c'est l'Église catholique. Elle intègre ces vagues-là. Et ensuite, après, il y a eu la troisième vague. Et la troisième vague du Saint-Esprit est venue sur les églises évangéliques qui s'étaient opposées à cette vague-là. Sous prétexte qu'un catholique ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Voilà. Donc la raison fait qu'il y a eu des combats. Et le Saint-Esprit donc est venu sur les évangéliques. Voilà. Et c'est la troisième vague. Et c'est dans les années 70, donc un petit peu plus loin. Et celui qui est un peu le phare de cette troisième vague, c'est John Wimber, que Michel et moi, on a eu la chance, d'ailleurs Philippe Schmitt aussi, d'écouter en Angleterre, où il est venu, je ne sais pas, une quinzaine de fois, et on y était pratiquement à chaque fois pour écouter ses enseignements. Et là, on a vu des signes et des miracles comme au temps de Jésus. Ça, c'est clair. On a vu vraiment la puissance de Dieu manifestée au travers de lui. Le problème, c'est que c'était un ami très proche dans la même école biblique que Peter Wagner, John Wimber. John Wimber, lui, a coupé les ponts en 96 parce que ça allait trop loin à cause des prophètes de Kansas. Les prophètes John Cain, John Paul Jackson, qui lui-même s'est repenti après, Bob Jones, etc. Peter Wagner a été inspiré par la cartographie spirituelle. Cartographie spirituelle qui est d'identifier les puissances comme on l'a fait ici sur Elisabethville, mais ensuite après prendre autorité. Ensuite, la croissance de l'Église en Amérique du Sud par les groupes plutôt que par les individus. Ensuite, la montée de la droite évangélique, le lobby Washington, donc il en fait partie. Le désir d'avoir des apôtres comme les autres courants chrétiens, dont les catholiques, bien sûr, qui sont sur la transmission apostolique par Pierre. L'évangile de prospérité, qui a joué aussi, dans lequel il a aussi joué un rôle. Parole de foi, Word of Faith. Kingdom Now, le phénomène du Toronto Blessing, où il y a eu une scission entre Wimber et Toronto à cause de ça. Anna Mendes et le combat de la Reine du Ciel. Et ici, un petit livre qui montre que Peter Wagner est monté en Himalaya pour détrôner la Reine du Ciel. Ça s'appelle Opération de glace, pour libérer l'humanité de l'influence de la puissance principale qui est sur la Terre, qui est la Reine du Ciel. L'angéologie, etc., etc. Donc tous ces phénomènes se sont agrémenté, enfin disons, autour de Peter Wagner. Le post-millénarisme va de pair avec le post-millénarisme de la nouvelle réforme apostolique. C'est l'idée que Jésus veut une église à son retour en dehors de toute dénomination, comme l'église primitive. Ça, l'idée, vous voyez, ça part toujours d'une idée. On ne parle pas d'une interprétation de la Bible, on parle d'une idée. Et ensuite, après, on cherche à justifier, à trouver des versets qui vont dans ce sens-là. C'est une utopie, puisque l'Église est une et trois, indivisible à la fois, universelle et locale, hein, comme je vous l'enseigne, quelle que soit sa dénomination. La dénomination n'est qu'une position doctrinale, et chacun peut avoir une position doctrinale. Si je faisais le tour de la salle, vous auriez tous une position doctrinale différente, et pourtant vous êtes membre de la famille de Dieu. Pourquoi ? Parce que la position doctrinale, c'est une façon où on évolue avec la connaissance biblique. Plus vous connaissez la Bible, plus vous pouvez analyser des doctrines. Sinon, vous ne pouvez pas. Donc, ce n'est pas lié à la position doctrinale et non pas à sa structure identitaire. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes dans l'Église sans forcément avoir toutes les doctrines parfaites. Voyez. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la congrégation dans notre jargon. D'où la recherche à marche forcée de l'œcuménisme. L'anarchie cherche à marche forcée l'œcuménisme pour gommer les dénominations. Et c'est basé sur des relations, quelle que soit la doctrine professée. On ferme les yeux sur la doctrine. Et on ne répond plus à l'exigence de l'Église comme colonne et appui de la vérité. Dernière chose, parce que je vois que le temps passe, ce qui est inquiétant, c'est que la nouvelle réforme apostolique est en phase avec le nouvel âge du Verseau, qui, grâce au verseur d'eau que j'ai dessiné ici, qui est un être qui verse de l'eau, c'est la précession des équinoxes où le soleil aujourd'hui est dans cette phase astrologique de l'univers. Eh bien, pour ceux qui interprètent l'astrologie, c'est la gnose, c'est l'ésotérisme qui est versé sur la Terre. Voyez. Donc c'est la connaissance donnée aux humains pour une conscience augmentée de leur identité cosmique. C'est-à-dire ils sont christiques. Christ est en vous et vous êtes des petits dieux. Et c'est ce qu'on enseigne à Bethel. Hein, c'est ce qu'on enseigne à Bethel. Vous êtes des petits dieux. Donc il suffit simplement de laisser grandir ce petit dieu, ce Christ, hein, un Christ cosmique. Et si les évangéliques utilisent la même terminologie, ben on arrive au même résultat. Vous voyez, c'est pas faux, mais c'est dans le désordre. Parce que c'est d'abord Christ qui est venu à la croix, et ensuite, après, il est venu en nous. Mais il n'est pas venu en nous sans la croix. Vous voyez, donc c'est l'erreur qui est très fine, mais qui est simplement dans l'ordre inversé. C'est pas faux, mais c'est dans le désordre. Que faut-il faire ? Eh bien, il faut discerner les temps. Là, j'ai pas le temps de prendre Matthieu 16, vu le temps. Faut discerner les temps. Faut savoir dans quel temps nous sommes. Et si nous ne le savons pas, nous sommes mal. Nous sommes mal. Parce que nous écoutons des choses et nous n'avons pas le discernement pour voir l'erreur. Deuxièmement, il faut s'attacher à la saine doctrine. Les déclarations de Chicago, ce sont des déclarations des évangéliques qui se sont retrouvées au niveau mondial dans les années 70, et pendant 10 ans, ils ont travaillé à l'inhérence biblique. Bible sans erreur, quelles sont les implications de tout ça. Et en fait, c'est Roger Guibal qui m'a mis dessus en me demandant de lire, sinon je ne l'aurais pas su, sur les déclarations de Chicago. Parce que les évangéliques ont vu profiler ces erreurs qui allaient venir. Et ils ont anticipé, voyez, puisque c'est en 77 qu'ils ont commencé les déclarations de Chicago, terminées en 87, quelque chose comme ça. Et s'éloigner du prophétisme extra-biblique. Des prophètes qui prophétisent ce que vous avez envie d'entendre, eh bien, ceux-là, il faut les écarter de votre chemin, parce qu'ils rajoutent des choses aux Écritures. Et j'étais très heureux, quand j'étais à Bethel, de voir le fils de Bill Johnson, Eric Johnson, qui, pendant toute une session d'une heure avec les étudiants, a dit « J'en ai marre qu'on tire les versets avec des élastiques. Et je veux revenir au fondement de mon grand-père. » Il était attaché à son grand-père. Oui, comme quoi, il y a du bon, parfois, dans la transmission. Hein. Et il a dit « Maintenant, je ne veux plus qu'on tire sur les élastiques. » Et lui, alors je ne sais pas ce qu'il devient maintenant, je suis pas, voilà, j'espère qu'il tient bon, parce que la vague est difficile hein, devant lui. Mais voilà, il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi des gens qui reviennent au fondement biblique. Et il faut s'éloigner du millénarisme entretenu par la peur de l'avenir. N'ayez pas peur de l'avenir. Tout est entre les mains de Dieu. Amen. Tout est entre les mains du Seigneur. La peur est toujours mauvaise conseillère. La peur est mauvaise conseillère. C'est la foi qu'il faut. Amen. Mais c'est facile à dire. Mais quand on est dans des situations difficiles, la peur reprend le dessus. Et là, il faut faire très très attention. Que c'est pour ça que les rassemblements en église, c'est important. Qu'on se soutienne, qu'on s'entraide, qu'on prie ensemble, qu'on tienne bon, qu'on tienne la saine doctrine, qu'on s'encourage, etc. Vous voyez, pour éviter de tomber dans la peur, qui, elle, va nous amener à croire ce genre de théorie. Voilà, deux documentaires que je vous recommande, c'est encore les vacances, on est encore dans les vacances, c'est Jesus Camp, qui explique voilà, les dérives de ce que je viens de dire, et American Gospel. Malheureusement, les deux sont en anglais, mais American Gospel, c'est extraordinaire. Je l'ai vu plusieurs fois. Ça explique ce que je dis là, hein, vous l'avez en film. Quelqu'un qui a travaillé, enfin plusieurs, hein, c'est Évangile 21, Wallis Gospel Coalition qui l'a fait, qui est d'une remarquable finesse et d'un exposé de l'Évangile que j'ai jamais entendu aussi clairement que dans ce documentaire, dans ce film. Voilà. Je termine là et on va prier. J'étais un peu rapide, mais c'est pour que vous compreniez que si on n'est pas dans de bonnes visions, on va se laisser entraîner. Il faut prier pour Philippe. Il faut prier pour Philippe. Parce que quand on est aussi accro, c'est très très difficile. Christian Schwartz dit se beler jusqu'au suicide. Quand on doit changer de paradigme, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas être dans le bon paradigme, au départ. De ne pas glisser au départ. On a aussi l'exemple de son épouse. Hein. On peut tout faire. Quand les gens sont dans l'ésotérisme, sont dans un autre monde. Et Philippe m'a dit que moi, je suis dans l'illusion. Moi, je suis dans l'illusion. Ce que je vois, je ne vois pas la réalité. Et donc, on arrive à déformer les choses, à inverser les choses. C'est très, très grave. Et ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, ça vient en Suisse, ça fait déjà une dizaine d'années. En France, ça commence à déferler. Donc, soyons conscients que ce n'est pas une vague qui va passer. Pas une vague qui va passer. Beaucoup de pasteurs disent « Oh, c'est une mode ». Moi, je n'y crois pas. Ce n'est pas une mode. Il y a une lame de fond qui va amener à la fin des temps. Et il faut qu'on soit vigilant. Seigneur, merci de ta parole. Et merci de la sagesse que tu nous donnes de nous fonder sur les Écritures et que sur les Écritures et pas sur des interprétations parallèles, des interprétations supplémentaires qui rajoutent, soi-disant, à la révélation. Non, Seigneur, tu as dit que c'est les fondements des apôtres une fois pour toutes. Et nous te remercions parce que c'est une réalité que nous voulons vivre dans cette Église. Nous demandons ta grâce, ton aide. Ce n'est pas facile, mais tu vas nous aider à rester fermes. Te prions au nom de Jésus. Amen.